Chers amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission hebdomadaire Auxerrois Info Sport sur les ondes de Radio Auxerrois Volcan FM. Auxerrois Info Sport, au service du développement de la région par le sport, s'est donné pour mission de promouvoir tous les efforts mis en œuvre pour rehausser le niveau de performance dans toutes les disciplines sportives pratiquées à l'extrême nord. L'édition de ce jour est consacrée au sport scolaire, notamment au jeu Fenasco Ligue B. Nous recevons à cet effet le coordonnateur technique régional de la Fenasco Ligue B, M. Calvounan Martin. Avec lui, nous reviendrons sur les dernières finales régionales qui ont eu lieu ici à Maroua. Nous scruterons aussi les perspectives d'avenir, dont la première échéance est la finale nationale, dont la date est en attente de confirmation. La Fédération nationale des sports scolaires, en abrégé FENASCO, est membre du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Il n'est donc pas superflu de dire, à juste titre d'ailleurs, que la FENASCO cultive les mêmes valeurs que les Jeux olympiques en utilisant le sport comme moyen d'éducation et de promotion des valeurs. Ces valeurs sont très nombreuses. Fair play, tolérance, goût de l'effort, dépassement de soi, brassage des peuples, acceptation des différences, citoyenneté nationale et internationale, brassage interculturel ou encore intégration des enjeux environnementaux. Les Jeux FENASCO visent justement à promouvoir l'excellence, à pousser les limites de l'effort physique humain dans le respect des règles et sans tricherie. La structuration de la FENASCO prévoit le regroupement des élèves de l'école primaire dans une ligue à part dite FENASCO B et ceux du secondaire dans la FENASCO Ligue A. Dans le cadre de ces activités, la FENASCO organise les Jeux scolaires chaque année. Mais à cause de la pandémie à coronavirus, ces Jeux ont été suspendus en 2020 et en 2021. Pour cette année 2022, la compétition tire vers sa fin. En effet, les finales régionales permettant à chaque région de sélectionner ses représentants aux finales nationales sont déjà bouclées. Les différentes délégations n'attendent plus que la date des finales nationales soit fixée par le gouvernement. Pour le compte de la région de l'extrême nord, les finales régionales FENASCO B se sont déroulées dans une ambiance bon enfant du 30 mars au 1er avril 2022 ici à Maroua, notre belle cité capitale. Les 6 délégations de la région ont durant 3 jours rivalisé d'adresse pour défendre leur honneur et porter leur département à la meilleure place du classement. Pour évaluer le déroulement de ces finales régionales et aussi pour comprendre le fonctionnement de la FENASCO Ligue B ici à l'extrême nord, nous recevons le coordonnateur technique de la dite ligue, M. Calvounan Martin, que nous accueillons derrière cette courte respiration. Monsieur Calvounan Martin, merci d'avoir accepté cette invitation de Radio Auxerrois. Bienvenue sur nos antennes.
Merci beaucoup. C'est moi qui vous dis merci d'abord pour nous donner cette opportunité de parler au public de la FENASCO B.
Alors déjà d'entrée du jeu, c'est quoi les Jeux FENASCO et quel est le dispositif réglementaire qui encadre ces Jeux?
La FENASCO B, je voudrais parler effectivement de la FENASCO B. C'est la FENASCO qui concerne uniquement les enfants de l'école primaire, les enfants de la CIL jusqu'au CM2. Alors, elle encadre donc ces enfants parce qu'ils ne peuvent pas faire la même FENASCO que le grand, c'est-à-dire ceux du secondaire ou bien ceux de l'université. Et c'est un cadre donc que l'État a pensé, que l'État a créé pour s'occuper de ces enfants de cette tranche d'âge-là, la tranche d'âge de l'école primaire.
Quelle est justement la différence entre la FENASCO A et la FENASCO B?
La FENASCO A concerne les enseignements secondaires et la FENASCO B concerne l'école primaire. Comme je le disais, la FENASCO B s'arrête à 12 ans. Maintenant, à 12 ans, l'enseignement secondaire donc, prend la relève avec ceux qui ont 13 ans jusqu'à 18 ans. Après 18 ans aussi, nous sommes déjà aussi dans la phase de l'université. Et tout à l'heure, vous avez dit, il y a donc un cadre réglementaire de chaque FENASCO. Elle est régie par un statut, un règlement spécial. À chaque édition, il y a un nouveau règlement spécial qui est mis sur pied et c'est en fonction de ce règlement-là que les enfants tiennent donc les FENASCO B.
Le gouvernement, en créant cette fédération des jeux scolaires, cette FENASCO-là, quel était l'objectif recherché? Quel est l'objectif des jeux FENASCO?
Alors, lorsque l'enfant est à l'école, il passe un an en train d'apprendre. Le gouvernement a pensé créer un cadre de récréation, un cadre de brassage des jeunes pour que les enfants puissent apprendre le vivre ensemble, qu'ils puissent se défouler à un moment donné de l'année. Donc c'est pourquoi cette FENASCO, c'est-à-dire la Fédération Nationale de Sport Scolaire, Ligue B, a été créée. C'est juste pour un loisir pour les enfants, un brassage, pour qu'à un moment donné, les enfants de l'extrême nord puissent connaître les enfants, par exemple, du nord-ouest, du sud-ouest, ceux-ci connaissent un peu leurs camarades de l'est, ainsi de suite. Voilà, donc c'est un cadre de brassage, un cadre de loisir pour les enfants.
Concernant justement la Ligue régionale FENASCO B de l'extrême nord, elle est portée par la délégation régionale des enseignements de base de l'extrême nord. L'enseignement de base, on va tout sur la scolarisation. Que vient faire le sport là-dedans?
Bon, le sport, on ne peut pas faire la scolarisation ou l'éducation sans le sport. Parce que l'enfant est essentiellement jeu et il lui faut du sport, il faut du jeu. Si on donne seulement la scolarisation ou l'éducation, l'enseignement sans le sport, il y a un manque dans la formation même du jeune. Pour qu'un enfant soit formé de manière complète, il lui faut donc l'éducation physique, les activités physiques dans sa scolarisation ou bien dans son système d'éducation. S'il n'y a pas ce système, le sport ou bien les activités physiques dans la formation de l'enfant, c'est que nous avons échoué avec notre éducation.
Alors, quelles sont les différentes disciplines sportives qui sont inscrites au tableau des compétitions de la FENASCO Ligue B?
Les disciplines inscrites au niveau de la FENASCO, il y en a jusqu'à 11 disciplines. Nous avons l'athlétisme, nous avons le tennis de table, nous avons le badminton, nous avons la lutte, nous avons le judo, nous avons la gymnastique, nous avons le basket, le handball, le volleyball, le futsal, le football. Voilà les 11 disciplines donc qui occupent les enfants pendant les Jeux FENASCO.
Ces 11 disciplines, est-ce qu'elles ont toujours existé ou alors il y a eu une évolution progressive, notamment cette année, s'il y a des disciplines innovantes?
Les disciplines ont évolué. Les disciplines ont évolué. Cette année, particulièrement, il n'y a pas quand même eu une nouvelle discipline, une discipline entrante, mais il y a eu quelques années, le futsal venait d'entrer à la dernière FENASCO, à la FENASCO de 2019 ici à Marois. Nous avons joué le futsal et avant cela, c'était juste à titre de démonstration. Et cette année, donc, ça devait donc continuer. Et avant cela aussi, il y avait le volleyball qui est entré avec son système un peu particulier. Tout comme le futsal aussi. Nous savons qu'il y a le volleyball féminin, le volleyball masculin, ou bien le football se joue aussi en femmes et garçons. Mais ici, la particularité du volley, du futsal, c'est que c'est des jeux mixtes. Alors sur le terrain, vous trouvez les filles et les garçons ensemble, au volley et au futsal. Voilà un peu la particularité de ces deux disciplines. Mais toutes les autres disciplines, c'est des disciplines qui se jouent... qui ne sont pas jumelés en genre.
Pour ces 11 disciplines inscrites justement dans les Jeux FENASCO B, quels sont les critères de sélection des jeunes? Quelles sont les conditions pour qu'un jeune puisse compétir dans le cadre de ces Jeux FENASCO?
Pour qu'un enfant puisse compétir à la FENASCO B, il y a un certain nombre de critères. Il y a d'abord un critère, le critère de gabarit. Alors, un enfant peut être jeune, mais il est physiquement grand. Alors, à ce moment-là, la FENASCO dit qu'on le met de côté. On ne peut pas jouer avec les tout-petits. L'enfant qui prétend jouer à la FENASCO B doit avoir 12 ans maximum. Il ne doit pas avoir plus de 12 ans. Ça, c'est le deuxième critère. L'autre critère, c'est le critère de la dentition. Les enfants qui viennent au FENASCO, au final de FENASCO B, doivent avoir au maximum 26 dents. Parce que on s'est dit que un enfant de... Il y a des enfants, bien sûr, de 12 ans qui peuvent dépasser. Mais pour limiter donc le système de tricherie au niveau de l'âge, là, il y a eu donc de manière scientifique que ce critère de dentition qui s'est ajouté à cela. Alors il y a aussi ce système, ce critère de la pilosité. Nous savons que les développements sexuels secondaires à 12 ans ne sont pas encore visibles. Alors lorsque nous avons un enfant qui est un peu, dans le cas un peu critique, le médecin qui est de la commission de vérification des gabarits peut vérifier donc les caractères sexuels secondaires. Voilà donc un peu le tour des critères qui entrent dans la sélection des enfants.
Alors dites-nous, quelles sont les différentes étapes qui ont abouti au final régional des FENASCO B qui ont eu lieu ici? Comment sont organisés ces jeux FENASCO sur le plan déjà des départements, ensuite au niveau régional?
Les jeux FENASCO B commencent au niveau des établissements. Alors, à la rentrée, les enfants commencent déjà à s'activer au niveau des arrondissements avec les interclasses. Les classes jouent entre elles. Ainsi, après, ils sélectionnent les meilleurs. Après cela, il y aura donc des interclasses et des inter-établissements. Les établissements du même bassin ou bien les établissements de la même localité commencent à jouer aussi entre eux, ils font des sélections. En plus de cela, il y a des meetings. Des meetings qu'on organise au niveau de sport individuel. Alors, tous les établissements d'un arrondissement se regroupent au niveau de sport individuel sous ce qu'on appelle le meeting. Alors, ils jouent entre eux et on sélectionne les meilleurs. Dans les sports collectifs, il y a ce qu'on appelle aussi le regroupement. Le regroupement en volley, en foot, le regroupement en basket, ainsi de suite. Ça, c'est au niveau des arrondissements. Et à la fin de ça, il y a donc cette finale aussi, cette finale d'arrondissement qui est organisée où tous les établissements prennent donc part. À la fin donc de ces finales, ils sélectionnent les enfants les meilleurs qui viennent donc au niveau du département. Tous les arrondissements d'un même département viennent donc discuter donc les finales départementales. À la fin de ces finales départementales, nous prenons encore les meilleurs qui viennent donc jouer les finales régionales. C'est comme ça qu'est structuré donc le jeu FENASCO.
Cette année, les finales régionales ont eu lieu où et quand?
Les finales régionales ont eu lieu ici à Maroua, du 30 mars au 1er avril. Les délégations sont arrivées le 30 et les jeux ont commencé donc le 31 et ont pris fin le 1er.
Quels sont les différents acteurs mobilisés pour l'organisation de ces jeux-là?
Bien, pour organiser les finales FENASCO Ligue B, il y a beaucoup d'acteurs qui entrent en jeu. Nous avons d'abord les enseignants de l'éducation de base qui sont chaque jour avec les enfants. Nous avons aussi le ministère des Sports ou bien la délégation régionale de sport avec son personnel qui entre aussi dans l'encadrement de ces enfants. Nous avons les fédérations sœurs. Nous avons dit tout à l'heure que c'est une fédération de sport scolaire. Nous avons par exemple les fédérations d'athlétisme, de football, ainsi de suite. Toutes les fédérations-là entrent aussi dans ce jeu. Elles aident donc la FENASCO B à se tenir près de main forte avec leurs officiels, puisque ce sont les fédérations qui forment les officiels. Et ce sont ces officiels-là aussi qu'on utilise pour l'arbitrage lors de ces finales. Donc, on peut dire qu'il y a le personnel de l'éducation de base, le personnel du sport et de l'éducation physique, le personnel qui sont dans les fédérations, les différentes fédérations. Voilà un peu tout ce qui participe pour que cette FENASCO B ait lieu. Et en plus de cela, nous avons aussi d'autres partenaires comme vous, partenaires de la communication. Nous avons d'autres sociétés qui viennent aussi s'afficher, qui viennent aussi se montrer, qui sont bien des partenaires de la FENASCO B. Ils sont nombreux.
Pour cette édition 2022 des finales FENASCO Ligue B qui sont tenues ici à Maroua, environ combien de participants ont pris part à ces finales-là? Et pas beaucoup plus en termes de compétiteurs, de jeux d'enfants qui ont pris part aux compétitions.
Les compétiteurs sont au nombre de 126. Ça, c'est les athlètes seulement, 126. En plus de ces 126-là, ils sont encadrés par 15 encadreurs. Après ces 15 encadreurs-là, nous avons aussi le staff administratif qui accompagne donc ces acteurs. Ils sont au nombre généralement de 7 ou de 8. Alors voilà un peu les gens qui viennent ici à la FENASCO. Chaque département est supposé venir avec 126 athlètes, donc 126 x 6. Nous accueillons donc ces 126 x 6-là ici à Maroua, en plus de leurs encadreurs et puis en plus de leur chef de délégation, bien le bureau administratif de chaque département.
126 athlètes par département, en faisant rapidement un calcul mental, on est dans les 750 à 800 enfants au moins qui sont mobilisés pour ces finales régionales ici à Maroua. Comment sont-ils pris en charge en termes de restauration, de sécurité, d'hébergement? Comment est-ce que vous réussissez à mettre tout en musique pour que tout cela soit assuré convenablement?
Je me corrige un peu là, je dis 126, nous sommes au total donc à 141 personnes, c'est-à-dire élèves, les athlètes et puis leurs encadreurs, leurs 15 athlètes, encadreurs. Nous sommes à 141 personnes. Alors, ce brassage-là, ce nombre-là, tout à l'heure vous avez demandé les acteurs de la FENASCO. Nous avons parlé du personnel de l'éducation de base, personnel de sport, le personnel de communication, ainsi de suite. Alors, pendant cette période-là, tout le personnel de l'éducation de base est mobilisé pour l'encadrement de ces jeunes. Il y a un village de jeux, c'est-à-dire là où tous les athlètes sont regroupés. Quand ils arrivent, on les accueille là-bas, on donne donc les droits à chaque département et on les met là-bas. Maintenant, il y a donc le personnel de l'éducation de base qui s'occupe de cet encadrement-là aussi. Parce que les encadrements sportifs, les encadrements de leurs encadreurs, les 15 athlètes là, ne peuvent pas être là tout le temps aussi. Parfois, ils sont sur les aires de jeu. Et il y a donc des personnels de l'éducation de base qui sont là, qui encadrent ces enfants. En plus de ça, il y a des commissions qui sont créées. Il y a la commission de cet encadrement, il y a la commission d'hébergement, il y a la commission de restauration. Il y a donc un comité qui s'occupe uniquement de la restauration. Avant que les enfants n'arrivent, ils sont déjà là. Les enfants arrivent, ils trouvent déjà qu'il y a déjà un repas. Et cela tout au long des 3 jours que dure la FENASCO. Ils sont nourris convenablement. Il y a donc cette restauration qui est là permanemment. Et c'est la délégation de l'État qui s'occupe de la restauration de ces enfants.
Pour cette édition 2022, le village des Jeux était situé où étaient logés les athlètes?
Tous les athlètes étaient logés à l'école, au complexe scolaire de Founangui. Tous ces athlètes-là étaient logés là-bas. Il y a suffisamment de salles de classe là-bas qu'on a transformées en dortoirs. Nous avons des matelas qui sont là stockés à la délégation régionale de l'éducation de base. Et ces salles ont été transformées en dortoirs. Tout le monde dormait au complexe scolaire de Founangui. C'est ce qu'on a appelé le village des Jeux.
Alors, pour les CG FENASCO, nous savons que dans les milieux sportifs jeunes, le phénomène de mercenariat est souvent pointé du doigt. Quels sont les mécanismes que vous mettez en place justement pour limiter cette fraude-là?
Le mercenariat, nous avons tout à l'heure, vous avez parlé tout à l'heure des critères de sélection. Alors, tous ces critères de sélection-là servent de garde-fou pour ce mercenariat. Et aussi, la sélection, c'est en fonction des disciplines. Il y a les disciplines individuelles. Dans les disciplines individuelles, les enfants peuvent venir de n'importe où. C'est-à-dire, si je prends par exemple en athlétisme, à la fin des finales d'arrondissement, les enfants peuvent venir de plusieurs écoles à la fois. Mais si c'est un sport collectif, les enfants doivent venir d'un seul établissement. Alors voilà un peu comment est-ce qu'on peut donc limiter le système de mercenariat. Pour qu'un enfant vienne comme un mercenaire dans une équipe, il faut d'abord au préalable que le directeur de cette école accepte que cet enfant-là soit son élève. Alors, si tout au long de l'année, l'enfant n'a pas été inscrit, je ne vois pas le directeur qui peut aller prendre sur lui cette charge-là ou bien cette responsabilité de le mettre dans son équipe. Parce que si on ne le souhaite pas, s'il y a par exemple un accident, s'il y a accident, c'est le directeur là qui va porter cette responsabilité sur lui. Uh-huh. Donc nous disons que les critères sont là et en plus la responsabilité des directeurs est engagée. Donc ça dit, un directeur ne peut pas facilement prendre sur lui de prendre un mercenaire qui n'est pas un élève ou bien qui est un élève d'un autre établissement. C'est un peu difficile.
Alors ce que vous dites m'amène à vous poser une autre question. Ça veut dire que dans les critères pour faire partie justement des délégations, il faut être inscrit dans un établissement scolaire. Est-ce que au niveau de la fédération FENASCO Ligue B, au niveau central, au niveau de la région ici, vous avez un fichier des compétiteurs que vous actualisez chaque début d'année qui vous permet justement de faire le contrôle pour vous rassurer que les effectifs qui vous sont présentés par les délégations sont des personnes qui sont effectivement inscrites dans les établissements scolaires?
La FENASCO B est placée sous l'autorité directe du ministère de l'Éducation de base. Le ministre de l'Éducation de base est le chef hiérarchique direct de ses directeurs et il utilise donc les fichiers qui sont ventilés chaque année dans le cadre de la scolarisation des enfants. Là, c'est d'abord un. Donc, ça veut dire qu'un directeur ne peut pas s'amuser à donner des listes une liste qui soit différente de celle qu'il donne à sa hiérarchie. Et l'enfant, en venant à la FENASCO B, doit avoir deux documents. Une licence sportive et une carte d'identité scolaire qui est signée par le directeur, qui est par le directeur de l'enfant. Alors, ces deux documents-là, n'importe qui ne peut pas quand même les signer. Alors, nous disons donc que voilà deux autres critères-là qui nous permettent un peu de limiter le système de mercenariat ou bien même d'éradiquer ce système de mercenariat. L'enfant doit avoir sa carte et il doit être assuré avec sa licence.
Alors, sur le plan des finances, comment sont financées justement des compétitions de ces Jeux FENASCO Ligue B? Vous avez dit qu'ils commencent déjà au niveau des interclasses. Est-ce que ce sont les parents d'élèves qui contribuent? Est-ce que ce sont les élèves eux-mêmes qui contribuent? Ou alors est-ce que c'est le ministère qui prend tout en charge?
C'est le ministère qui prend en charge la FENASCO B. Et la FENASCO B est subventionnée par l'État. C'est l'État qui prend vraiment en charge ce financement pour que ces finales puissent se tenir dans de meilleures conditions. Les élèves ne contribuent pas, surtout que l'école primaire est gratuite au Cameroun. Alors on ne peut pas dire que l'école est gratuite et puis on demande par exemple une contribution pour le jeu FENASCO. Elle est essentiellement subventionnée par l'État.
Nous savons que ces enfants qui viennent pour ces finales régionales sont pour la plupart, vous avez dit, 12 ans, dont les mineurs. Sur le plan sécurité, je voudrais un peu insister là-dessus. Comment est-ce que la sécurité est assurée? Quand on sait que pour un parent de savoir que son enfant part du fin fond du Logo Nechari, par exemple, ou bien du fin fond du Mao Danaï, pour venir à Mawa seul, sous la seule responsabilité des encadreurs, comment est-ce que vous faites pour vous assurer qu'effectivement, il n'y ait pas d'incident qui se produise, comme on dit au quartier, avec l'enfant d'autrui?
Bon, tout à l'heure, je vous ai parlé de 15 encadreurs. Et ces 15 encadreurs-là sont répartis par discipline. Par exemple, en athlétisme, nous avons 9 filles et 9 garçons. Et là, il y a 2 encadreurs. Un encadreur pour les filles, un encadreur pour le garçon. Alors, il y a aussi le football qui est peut-être un peu pléthorique. Le football, ils sont à 14. 14 filles et 14 garçons. Et ils ont aussi 2 encadreurs. Les autres disciplines, c'est les disciplines de 10, de 8, de 4, ainsi de suite. Alors, si nous donnons un encadreur pour 14, je me dis quand même qu'on peut donner cette confiance-là à cet encadreur de s'occuper de 14 enfants seulement. C'est pas quand même trop. 15 encadreurs qui doivent s'occuper régulièrement de ces enfants. Alors là, pendant le déplacement, ils sont bien encadrés avec le staff administratif, avec les 15 encadreurs qui sont là. Lorsqu'ils arrivent aussi sur le village de jeu, nous avons la sécurité qui est là, la police qui est là. Nous avons une équipe médicale qui est logée sur place pour s'assurer que les enfants ne tombent pas malades, ou même s'ils tombent malades, qu'ils sont pris en charge. Nous avons les sapeurs-pompiers qui sont là, nous avons la Croix-Rouge. C'est-à-dire, été mis en jeu pour que ces enfants ne puissent pas souffrir ou bien pour avoir quand même la confiance des parents des enfants. Tout le système est mis en jeu pour donner cette confiance-là aux parents.
Et nous savons que l'école est par essence le lieu où on inculque certaines valeurs fondamentales aux enfants. Comment sont garanties justement la promotion du mérite et du fair play par les FENASCO Ligue B?
Alors ici, nous, lorsque nous organisons le final, c'est pour que le meilleur gagne. Nous avons dit tout à l'heure que nous demandons un peu le concours des différentes fédérations pour nous donner leurs officiels. Et c'est des officiels donc qui sont expérimentés. C'est des officiels qui viennent avant même de jouer. Ils prêtent d'abord serment pour dire qu'ils ne peuvent pas forcer les jeux. Ça veut dire que le mérite là est préservé ici. Lorsque les enfants jouent, c'est vraiment les méritants qui sortent de là. Ça, il y a cette culture de ce mérite qui est là. Aussi, nous avons en début de chaque finale, en début de chaque jeu, une commission aussi qui s'occupe du fair play. C'est-à-dire, il est là, il sillonne toutes les équipes, tout le village de jeu, sur le terrain, sur les aires de jeu. On voit les enfants ou bien les délégations qui se démarquent par un bon comportement. Et à la fin, donc, les deux grands trophées, c'est le trophée de mérite et le trophée du fair play. Voilà les deux grands thèmes là qui sont vraiment pris en charge. Ils ne sont pas négligés.
Alors, nous avons fini les jeux FENASCO, les finales régionales Ligue B. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au cours de cette édition 2022?
Bon, les difficultés, il n'y en a pas vraiment aussi beaucoup, mais la première difficulté, c'était la trêve. Vous savez que la dernière FENASCO nationale a eu lieu en 2019 ici à Maroua. Après, le Covid est arrivé, on a perdu 2 ans sans jeu FENASCO. Et il fallait encore remobiliser les enfants. Et c'était vraiment pas facile. Il y a eu cette rupture. Ceux qui ont joué la FENASCO en 2019 là sont déjà peut-être au scolaire. Ou bien ceux qui devaient jouer les 2 années là sont même déjà encore partis au niveau du secondaire. Voilà un peu cette difficulté. Il fallait reprendre encore à zéro. Il y en a qui avaient même déjà oublié cette notion de FENASCO avec cette fameuse histoire de Covid. Voilà un peu cette difficulté, c'est-à-dire reprendre à zéro avec de nouveaux enfants, avec de nouveaux encadreurs ainsi de suite.
Quel bilan est-ce qu'on peut tirer de ces finales régionales en termes de classement, en termes de médailles, qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat?
Ok, en termes de bilan ou bien en termes de classement, nous avons la délégation du Maïb Danaï, qui était la première délégation, avec 22 médailles en or, 5 médailles en argent et 10 médailles en bronze. Après le Maïb Danaï est venue la délégation du Diamaré, qui a eu au total 13 médailles en or, 9 médailles en argent et 15 en bronze. Troisième, c'était la délégation du Mayo Kani, avec 9 médailles en or, 7 en bronze et 11 en argent. Quatrième position, c'était le Mayo Sava. Le Mayo Sava est venu avec 5 médailles en or, 10 en argent et 10 en bronze. Ensuite est venu en cinquième position le Logo Nechari, avec 3 médailles en or, 8 médailles en argent et 9 en bronze. La dernière délégation, c'était la délégation du Mayo Chanaga, avec une médaille en or, 12 médailles en argent et 12 médailles en bronze. Voilà un peu le classement des départements au final régional FENASCO B 2022.
Est-ce qu'il y a une justification au fait que le Mayo Danaï soit sorti premier dans ce classement? Qu'est-ce qui pourrait justifier cela?
Bon, ici, nous pouvons dire que c'est le travail qui paye. Parce que lorsque vous allez dans le Mayo Danaï, à n'importe quel moment de l'année, vous allez trouver toujours les encadreurs avec les enfants. Que ce soit les petits, que ce soit les enfants de secondaire ou bien même les vétérans, vous allez toujours trouver les terrains, les aires de jeu occupées. Alors que dans d'autres arrondissements, ce n'est pas le cas. En décembre, lorsque nous faisions un peu le tour des départements pour essayer, n'est-ce pas, de réveiller la FENASCO B, nous sommes allés trouver certains départements qui n'avaient pas encore commencé à encadrer les enfants en décembre. Alors qu'en décembre, le Maïdana était déjà prêt pour jouer les finales. Nous disons donc que c'est le travail ici qui fait la force du Maïdana.
Alors les jeux sont derrière nous. Quelle perspective pour ces jeunes athlètes-là qui se sont démarqués par leur performance sportive?
Bon, malheureusement, il n'y a pas un cadre. Il n'y a pas un cadre pour accueillir ces meilleurs enfants qui se démarquent lors des finales régionales comme cela. Parce qu'un enfant de 12 ans qui sort de la FENASCO B, à 13 ans, par exemple, disons qu'il est au secondaire, il ne peut pas compétir avec son grand frère de terminale qui a 18 ans. Quoi qu'on dise que la FENASCO A, c'est de 13 à 18 ans, mais ce n'est pas facile. Sauf dans certains sports individuels qui tiennent compte du poids de l'âge ou de l'enfant. Mais dans d'autres disciplines comme les disciplines collectives, là, c'est pas facile de trouver vraiment un bébé de 12 ans, 13 ans, jouer avec ceux de 18 ans. Et sur le plan étatique aussi, nous n'avons pas un cadre pour encadrer ces enfants. Voilà un problème qui demeure. Alors si on pouvait avoir cette possibilité de suivre ces enfants aux sorties des finales régionales, ça serait une bonne chose. Mais malheureusement, il n'y a pas.
Vous irez certainement, je suppose, au final national de la FENASCO Ligue B. Quelles sont vos ambitions pour cette compétition nationale-là?
Les finales, nous les attendons. Nous attendons encore la date qui n'est pas la primature n'a pas encore répondu pour dire qu'il y aura FENASCO ou pas. Nous sommes encore là comme ça. Mais lorsque nous allons à la FENASCO au niveau de finale nationale, notre objectif, c'est ce que j'ai dit au début, le brassage des enfants. Il faudrait que les enfants de l'extrême nord aillent se retrouver avec les enfants d'autres régions. Qu'il y ait donc ce brassage-là, qu'il y ait ce vivre ensemble, qu'il y ait cette récréation, qu'il y ait ces loisirs pour nos enfants. C'est l'objectif que nous vivons lorsque nous nous déplaçons avec les enfants. Le jeu, les médailles, ça vient après. Ça vient après. Mais nous savons quand même que l'extrême nord, avec le talent qu'il y a, chaque année, soit nous sommes premiers, soit nous sommes deuxièmes. Mais ce que nous visons là-bas, ce n'est pas cette place, ce n'est pas les médailles, mais le brassage des enfants, apprendre aux enfants à vivre avec leur semblable qui viennent d'autres régions. Voilà notre objectif.
Alors, de manière générale, et d'après vous, d'après votre longue expérience dans ces jeux FENASCO, en quoi est-ce que justement ces jeux FENASCO contribuent au développement du mouvement sportif dans notre région?
Ces enfants, nous pouvons dire qu'ils contribuent énormément au développement du mouvement sportif. Parce que lorsque nous voyons un peu au niveau des secondaires, même comme je disais tout à l'heure que lorsqu'un enfant sort de la FENASCO B, il y a une à deux ans là que l'enfant la perd parce qu'il ne peut pas compétir avec les autres. Mais plus tard, nous le retrouvons au niveau de finale A, au niveau de finale de l'enseignement supérieur. Il participe énormément au développement du mouvement sportif. Je voudrais prendre pour exemple concret les enfants d'une école de Han à Maga qui est encadrée par Madame Marchand. Elle a vraiment beaucoup fait pour le développement du développement du mouvement sportif dans la région. Dans ce sens que elle a déjà beaucoup d'enfants au niveau de l'équipe nationale. Cette année, elle attend encore à envoyer peut-être jusqu'à 3 ou 4 encore. Elle a assuré le passeport de ses enfants. Et c'est des enfants qu'elle a pris donc depuis tout petit, des petits enfants là, qui sont au niveau de jeu. Elle a dans l'équipe féminine de handball nationale, l'équipe masculine de handball garçon, elle a beaucoup de garçons là-bas. Et c'est des garçons-là qui sont sortis donc de cette FENASCO, qui sont sortis de cet encadrement que nous donnons donc aux enfants à la Ligue B. Voilà pourquoi nous disons que ce n'est pas à négliger. Actuellement, là, elle a 3 filles qui évoluent donc à l'équipe nationale junior. Elle a 4 garçons à l'équipe nationale cadette de handball, oui. À partir d'août prochain aussi, elle aura 3 filles qui vont rejoindre l'équipe nationale cadette. Au total, ça portera donc le nombre de ces enfants-là à 10 qui sont par exemple au niveau national. Alors, ce n'est pas mauvais. c'est vraiment une femme aussi à féliciter, à encourager. Parce qu'elle se donne vraiment au sport. Et nous voyons donc tous ces enfants qui sortent de nos écoles, qui sortent de cette FENASCO B, qui se retrouvent un peu plus tard au niveau national. Déjà à Maga seulement, elle a 10. Alors vous voyez donc la FENASCO B quand même a fait quelque chose pour le développement du mouvement sportif de la région.
Alors, pour sortir, est-ce qu'il vous arrive, dans le cadre justement des établissements ou bien des délégations départementales, nous savons que ce sont des enfants qui sont très jeunes et d'ailleurs très vulnérables, qui prennent part justement à ces compétitions, et s'il arrive que vous rencontrez des réticences au niveau des parents qui disent ne pas vouloir laisser des enfants se déplacer pour aller pratiquer une activité sportive, avec tous les risques bien sûr que cela comporte, si oui, comment est-ce que vous gérez ce genre de cas quand vous les rencontrez?
Il y a ce genre-là chaque année. Chaque année, nous rencontrons ce problème. Nous finissons les finales régionales, nous faisons la sélection, mais des parents vous disent carrément que son enfant ne part pas. À ce moment, on se déporte, les responsables se déportent, ils causent avec lui. S'il arrive à le convaincre, tant mieux, on va. Mais si on ne peut pas le convaincre, nous laissons tout simplement, nous prenons les deuxièmes qui viennent après. Sinon, ce cas-là, c'est très fréquent. Chaque année, nous avons au moins un cas comme ça.
Alors, M. Calvonan Martin, coordonnateur technique régional de la FENASCO B, Radio Seri vous remercie d'avoir accepté son invitation.
Merci beaucoup pour cette occasion donc, que vous donnez à la FENASCO Ligue B de se faire entendre ou bien de se faire connaître au public de la ville de Maroua ou bien dans le Diamarais. Parce qu'effectivement, beaucoup ne connaissent pas cette histoire de FENASCO. Parfois même les enfants sont en train de jouer, il n'y a pas beaucoup de public, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est. Alors nous répétons donc pour dire que c'est la FENASCO, c'est un mouvement sportif qui s'occupe de tout petit, les enfants de l'école primaire. Donc merci beaucoup.
Fidèle auditeur de la 105.5 MHz Vocal FM, c'est ici que nous refermons cette autre production de Haut-Série Infosport consacrée à l'édition 2022 des finales régionales FENASCO Ligue B de l'Extrême. Nous tenons à remercier M. le délégué régional de l'éducation de base, par ailleurs président de la Ligue régionale FENASCO B, qui nous a facilité la production de cette émission. Nous remercions aussi toutes les personnes qui y ont contribué, particulièrement Maxino la technique et David Bayan la coordination. Au micro des présentations, je suis Steve Febi. Donnons-nous rendez-vous dans une semaine, même jour, même heure, pour une autre édition de Haut-Série Infosport, au service du développement de la région par le sport. D'ici là, retenez qu'un esprit sain c'est bien, mais un esprit sain dans un corps sain c'est mieux. À la semaine prochaine.